Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You fellow, but you fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You miss summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not...
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 19 octobre 2016, il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, nous allons commencer les informations par des petites brèves.
Qui seront suivies par cette fois un gros dossier, gros morceau, autour de la circulaire Urvoas, dont on a très peu entendu parler. On parlera d'armes, de dispositifs policiers, on parlera de ZAD, on parlera de Calais, on parlera de beaucoup de choses, du forum à Saint-Étienne, etc., etc.
Et ensuite, on parlera de l'ouverture d'un lieu autogéré de passage de migrants.
Qui sera suivi par le compte-rendu du procès Monsanto.
Et nous conclurons ces infos par un petit agenda. Alors aujourd'hui se déroulait le procès en appel des 8 salariés de Goodyear d'Amiens accusés d'avoir séquestré 2 cadres de l'entreprise. Alors on va faire un petit retour sur le contexte à l'époque. Alors après plusieurs mois de grève et d'action pour contrer la direction dans son plan de fermeture de site, la direction reste sourde à toute cette mobilisation et aux revendications et annonce la fermeture du site. 1143 ouvriers sont laissés sur le carreau. La direction refuse de négocier les indemnités de départ des salariés dans un premier temps. C'est donc dans ce contexte extrêmement tendu que 8 salariés décident de bloquer le directeur des ressources humaines et le directeur de production. Ils seront bloqués dans l'usine pendant environ 30 heures. Alors c'est sûr que 30 heures face à des gens qui vous détestent et qui ont en face d'eux une partie du problème à la fermeture de leur usine, ça ne doit pas faire rigoler. Mais bon, comparé à se retrouver sans boulot du jour au lendemain, c'est quand même vraiment pas grand-chose.
Et à l'exploitation pendant des années et des années.
C'est ça. En tout cas, aujourd'hui, la situation de l'ancien DRH et du directeur de production est bien plus confortable que celle des 8 prévenus qui comparaissent devant le tribunal. En janvier 2016, les 8 ex-salariés de l'usine d'Amiens Nord avaient été condamnés dans un premier jugement, à 9 mois de prison ferme, ce qui est quand même énorme. Tous clament leur innocence, alors avec comme argument de poids, je cite, on ne leur a jamais dit qu'ils ne pouvaient pas sortir. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu con, un DRH et un directeur de production, c'est pas parce qu'ils se retrouvent dans une salle avec des gros gaillards qui charrient du pneu toute la journée qu'ils ne pouvaient pas leur demander poliment de leur ouvrir la porte. C'est sûr que s'ils n'y ont pas pensé, en même temps, ils vont pas se plaindre. En tout cas, grosse mobilisation de soutien, puisque plus de 5000 personnes ont manifesté à Amiens pour soutenir les ex-salariés. Et plusieurs mobilisations, alors je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais à Lyon, il y avait également un rassemblement et dans plusieurs autres villes de France. Et on continue dans l'automobile, hein. Puisque PSA veut supprimer 2000 postes. Alors on en a parlé la semaine dernière avec Alstom qui voulait fermer une usine et s'est vu commander par l'État des rames TGV qui allaient circuler sur des lignes intercités pour justement sauver l'usine d'Alstom. Alors ça a donné des idées à PSA qui s'est dit que comme tout le monde commence à profiter de cette année d'élection où le gouvernement n'a pas trop envie de voir des grosses boîtes fermées, surtout là je parle de PSA, celle où il est représenté à 14% dans le conseil d'administration, ils se sont dit bah tiens, nous aussi on va attirer l'attention et on va déclarer qu'on va virer du monde, espérant un petit coup de pouce de la part de l'État pour vendre encore plus de bagnoles. Alors pour finir un peu leur blague un peu dégueulasse, bien évidemment PSA est bénéficiaire de 2,4 milliards d'euros en 18 mois et son patron, on le rappelle, avait doublé son modeste salaire pour atteindre la modique somme de 5,2 millions d'euros. Bon voilà, après ça ils vont pleurer de se faire séquestrer dans une salle.
Ouais, après ça, comment vous voulez qu'on passe pas par des petits commentaires gauchistes quand le monde fonctionne de cette manière ? Et on commence donc l'étude de cette fameuse circulaire Urvoas, du nom du ministre de la Justice, qu'on entend plus dans ces négociations avec la Flicaille plutôt que ce truc-là qui a été vraiment complètement, a priori, passé sous silence et un peu diffusé sur Internet. Alors en gros, voilà, le ministère de la Justice a publié au début de ce mois une circulaire adressée à tous les procureurs et au président des tribunaux. Ce texte annonce plein de mesures spécifiques pour accélérer le traitement des infractions constatées. Quand je vais appuyer comme ça, comme infractions, ça veut dire que c'est entre guillemets. Il traite également des zadistes, mais aussi de la situation à Calais, où le démantèlement du grand camp de campement est prévu, notez-le dans vos agendas, à partir du lundi 24 octobre pour l'instant. Les militants ayant envie et militantes envie de manifester, ainsi bien sûr que les jeunes des quartiers populaires, comme par hasard, sont clairement dans le collimateur du ministère, qui envisage, je cite, « un nombre conséquent d'interpellations ». La circulaire prévoit des tribunaux d'urgence par, je cite, « la création d'audiences spécifiques lorsqu'elles n'existent pas, ou le dédoublement de celles déjà prévues, et avec diffusion à l'audience des vidéos retenues pour preuve contre les manifestants ». Et là, y compris les extraits des enregistrements de ce qu'ils appellent la vidéoprotection, c'est-à-dire ce que nous appelons la vidéosurveillance. Il faudra juger sans attendre, donc prévoir plus de magistrats, plus d'audiences et des procédures qui tiennent debout pour étayer cet abattage judiciaire. Les douaniers, en outre, eh bien, ils seront réquisitionnés pour contrôler les véhicules avant les manifestations, ce qui n'est encore jamais arrivé. Du coup, un petit renfort avec une autre escouade de surveillance des chiens de l'État. Le ministère de la Justice a adressé cette circulaire aux procureurs, donc, afin d'anticiper le traitement expéditif de nombreuses personnes arrêtées et de parer au débordement des tribunaux. Je cite « Compte tenu des difficultés engendrées par le traitement dans l'urgence de faits qui relèvent d'un phénomène de masse et de l'articulation malaisée entre les opérations nécessaires de maintien de l'ordre et les impératifs d'efficacité judiciaire. Ces orientations de politique pénale ciblent les manifestations sur la voie publique proches de celles constatées lors de violences urbaines et le traitement des infractions commises par certains mouvements qui mènent des occupations illicites de terrain afin de s'opposer à un projet d'aménagement au motif qu'il portera atteinte à l'environnement. » On aurait du mal à être beaucoup plus clair. Et bien maintenant, on va voir tout le détail de cette circulaire.
Donc le ministère de la Justice l'a adressée au procureur et elle a été signée le 5 octobre par le directeur des affaires criminelles et des grâces, retenez son nom, Robert Guély. Et il rappelle au procureur là-dedans qu'il ne faut pas oublier l'article 433.11 du Code pénal, je cite, l'opposition à l'exécution de travaux publics, mais aussi l'entrave à la liberté du travail ou l'entrave à la circulation routière. Ça, c'est trois chefs d'inculpation qui ont servi à Nantes pour condamner les opérations escargots en janvier 2016, ce qui avait occasionné des amendes de 200 à 600 euros ferme ou avec sursis pour toutes les personnes qui avaient conduit. Bref, voilà, c'est le petit truc insidieux où ils rappellent comment, pour pas grand-chose, on peut inculper des gens. Mais donc, le texte prévoit de nombreux dispositifs, donc je vais les reprendre dans l'ordre. Des magistrats en renfort, dépêchés des cours d'appel. Donc je cite, en cas d'important surcroît d'activité, les procureurs généraux apprécieront l'opportunité de déléguer des magistrats du parquet général auprès des juridictions du premier ressort concerné, conformément au dispositif de l'article blablabla du Code de l'organisation judiciaire. Donc voilà, c'est pour qu'il y ait une justice donc expéditive, qui est le deuxième point, un délai court entre l'arrestation et le passage devant un juge, puisqu'il y aura plus de juges au même endroit. Le déferrement est le terme juridique indiquant qu'au terme de la garde à vue, le prévenu est traduit directement en justice sans être libéré. Pour les faits les plus graves ou qui s'inscrivent dans une démarche délibérée d'affrontement avec l'État, donc ça c'est en citation, hein, notamment pour l'ensemble des violences commises à l'encontre des forces de l'ordre, les parquets privilégieront le déferrement des mises en cause et la comparution immédiate. Il doit en être de même pour les faits commis par les récidivistes ou réitérants. Donc on rappelle qu'on est quand même dans un contexte d'état d'urgence où c'est plus facile d'augmenter tous les trucs de répression policière et de justice. En gros, ce que ça veut dire, c'est placer beaucoup plus facilement des personnes en prison sur du provisoire. Mais...
Après, finalement, c'est déjà ce qui se passe dès qu'il y a des mouvements sociaux ou des grosses manifs, c'est ce qui a eu lieu. Il y a eu une explosion des comparutions immédiates à chaque fois, qui proposent, qui forcent de plus en plus en mettant la pression. Donc c'est juste mettre une circulaire sur quelque chose qui est déjà une pratique et qui va s'amplifier du coup.
Ah mais tout ce qui est dans cette circulaire est déjà mis en pratique, c'est qu'ils appuient dessus là actuellement puisque deux grosses expulsions sont prévues. Il y a des antennes mobiles de garde à vue, donc le recours systématique à des geôles roulantes sur les lieux d'interpellation doit fluidifier les procédures et les rendre plus fiables en justice. C'est franchement dégueu leur terme. Certains des officiers de police judiciaire pourront se tenir à proximité des lieux d'interpellation dans des véhicules adaptés, susceptibles de constituer des antennes mobiles pour la notification immédiate des droits aux personnes placées en garde à vue. Donc c'est ce travail-là à la chaîne, là. Donc c'est ce qu'on appelle des paniers à salade aussi, qui ont déjà souvent servi lors des arrestations, notamment par exemple c'est les dernières manifestations contre la loi travail. Tu voulais préciser?
Non, j'étais juste en train de voir la personne de notre trio, nos infos qui n'avait pas lu le texte et de regarder ses yeux exorbités comme ça, ce que tu disais.
Ouais, les gardes à vue mobiles, c'est quand même pas mal, quoi.
Ouais, les paniers à salade. Ouais. Alors, les confrontations rapides. Alors, si elle conteste ce qu'on lui reproche, la personne interpellée, donc on dit, j'ai rien à déclarer ou non, ou machin, la personne interpellée devra être confrontée à son accusateur. Par exemple, un policier. Cette confrontation n'est pas prévue immédiatement, mais au moins dans le temps de la garde à vue. L'audition des agents interpellateurs et leur mise en présence avec les personnes interpellées doivent, dans la mesure du possible, être largement prescrite, tout particulièrement lorsque les faits sont contestés. Donc, ce qui est, entre autres, aussi une mise en pression, quoi, de sous pression des personnes gardées à vue. Mais alors, le magistrat de la les syndicats de la magistrature trouvent que, sur ce truc-là de la confrontation rapide, c'est plutôt une bonne chose, parce que souvent... dans des trucs à charge contre les flics laissent beaucoup de temps, voire un épuisement pour ne pas être confrontés. Du coup, eux, ils trouvent que c'est un pas en avant.
Moi, je pense qu'il y aura peut-être plus de plaintes qui aboutiront derrière, par exemple.
Voilà, mais après, dans le contexte de la garde à vue, c'est aussi une mise sous pression. Et s'ils le mettent dans leur texte, c'est bien qu'ils ont des idées derrière la tête. Pour que ça soit pas très cool pour les gens gardés à vue.
Après, il est toujours possible que ça puisse avoir des conséquences multiples. Le syndicat de la magistrature, il va nécessairement pas se mettre dans la peau d'une personne qui est en garde à vue, de toute façon.
Et alors, un autre truc, c'est de systématiser que manifestation veut dire association de malfaiteurs. Donc, le texte conseille le recours à la qualification pénale d'attroupement, qui transforme un rassemblement, une manifestation en infraction pénale et au délit d'association de malfaiteurs habituellement utilisé contre le grand banditisme. Donc, dans l'annexe 1 de la circulaire, il est par exemple indiqué que pourraient être mises en garde à vue deux personnes détentrices d'un récipient d'essence sur la voie publique en pleine nuit, au sujet desquels il existe des raisons plausibles de soupçonner que, dans un contexte de violence urbaine ou de manifestation violente, elle s'apprête à commettre des dégradations par moyens incendiaires ou à fabriquer des cocktails Molotov. Donc, vaut mieux pas tomber en rade d'essence ces prochains temps dans certains endroits.
Ça semble assez clair, ouais. Il faut faire bien le plein.
Et aussi, la musique est suspecte. Alors, outre les numéros d'immatriculation des véhicules systématiquement relevés, il est conseillé de rechercher le nom et l'adresse de la société ayant loué le matériel de sonorisation dans le cadre de rassemblements festifs à caractère musical. Bon, ça, c'est déjà été fait, c'est de nouveau. Et bien sûr, je pourrais vous faire deviner, mais qu'est-ce qu'on a oublié ? Les visages masqués. Le texte rappelle que le fait de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié au sein et aux abords d'une manifestation sur la voie publique, dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public, est une infraction de la cinquième classe, passible d'amende. Et enfin, et comme tu l'as...
Est-ce que le texte dit que, par exemple, cette interdiction vaut pour les policiers? Comme par exemple, souvent, les baqueux dans les, gros, dans les grosses manifs, là, on les voit...
Ben non, mais eux, ils sont avec dans le petit... cadre de travail.
Ouais. Je pense pas, oui. Non. Je pense pas. Non. Par contre, on pourrait supputer un petit peu une espèce de manifestation zadiste en burkini qui serait là, du coup, du triple degré de gravité avec cette circulaire.
Parce que moi, j'ai vu une manif de flics...
C'est
une
blague.
Les photos d'une manif de flics... récemment, là, pour je sais plus quoi, là, si, pour la voiture qui avait été attaquée au cocktail, là, il y avait plein de manifs de flics en ce moment. Et ben, une photo, et ben, il y avait toute une ligne de ce qui ressemblait à être un peu des backups, parce qu'ils étaient tous en civil avec le brassard. Et ben, ils étaient tous visage masqué, par exemple.
Mmh. Oui, mais eux, ils travaillent. Eux, ils sont dans leur bon droit.
C'est vrai.
Hein? Et donc, ce que tu nommais là, les douaniers réquisitionnés, donc la circulaire précise que les douaniers pourront être appelés en renfort pour les contrôles de véhicules et les saisies éventuelles d'armes au regard de leur positionnement sur les principaux axes de circulation pour contrôler des individus armés se rendant, bien sûr on y croit armés quoi, se rendant sur les lieux de manifestation et procéder à la saisie de leurs armes, ce qui implique de sélectionner les véhicules suspects pour les fouiller à la recherche d'armes. Mais alors, voilà, quelles armes
En gros, coupez vos dreads et vos crêtes.
Et alors, lors du mouvement contre la loi travail, on a retenu comme armes de simples lunettes de natation ou de ski protégeant des gaz. Donc, en gros, ça veut dire multiplication des contrôles routiers et donc multiplication de tonnes de petites amendes pour d'élite cinquième catégorie, là, entre visage masqué, le truc de ralentir la circulation, etc. Et du coup, bah, on a intérêt qu'il y ait beaucoup de solidarité pour nos différentes caisses de soutien face à la justice, parce que je pense que ça va bien pleuvoir toutes ces amendes.
Les prochains temps, oui, vont être sans doute financiers un peu. Mais en parlant de solidarité, ben forcément, il n'y a pas que l'argent. Et du coup, dans ces temps un peu où on a nous cesse de parler de l'expulsion de Laza et d'être calé, etc., sur laquelle on reviendra un petit peu après, eh ben, ils s'organisent. Alors, bon, les auditeurs et auditrices de Canu l'auront sans doute pas raté. J'ai l'impression que le jingle tourne pas mal. Mais ils s'organisent un forum pour le désarmement de la police et la démilitarisation des conflits. Saint-Étienne, donc 22 et 23 octobre. Ce qui, du coup, bon, bah, ville historique quand même de fabrique d'armes depuis des siècles et des siècles, la ville de l'invention du flashball, du FAMAS, la fabrication encore actuelle de tout l'attirail d'armes dites non létales, comme on dit. Ce forum se met en place dans la continuité de celui qui avait eu lieu à Pont-de-Buis l'an passé. Et il se met bien sûr aussi dans la continuité de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, alors notamment bah, le mouvement contre la loi travail et ses centaines de blessés, d'hématomes, etc., dont les photos ont largement et les vidéos ont largement tourné sur Internet. La mort d'Adama Traoré, par exemple, même sans armes, la police tue, donc parlons encore plus de quand ils sont armés, tous les abus habituels et quotidiens dans les quartiers dits sensibles, et bien sûr l'état d'urgence qui règne dans le pays et qui permet toutes les exactions et tous les excès depuis bientôt plus d'un an et demi. Voilà, donc à Saint-Étienne, week-end d'action, de forum et de rencontres. J'avais un petit peu envie, dans le cadre de tout ça, de vous lire un petit peu le programme détaillé pour être un peu alléchant. Ça commence donc le samedi 22 octobre à 15h par ce qu'il s'appelle le Famastival. C'est une parade costumée animée par une visite guidée carnavalesque du patrimoine industriel de la capitale du Famas. Il y aura de la musique, des costumes et des petits, comment ça s'appelle, des cotillons, là, tout ça j'imagine, etc. etc.
Et donc qui a acheté la sono de cet événement?
Ça, il savoir, faudra hein. Regarder les étiquettes du matériel qui sera à disposition sur place, comme tout bon, toi et tes collègues là, ouais, c'est ça. À partir de 19h, bien sûr, après un repas, discussion, etc., qui sera suivi d'un concert de soutien avec Tout Doit Disparaître, qui est un groupe de New Wave un peu incendiaire, dub mentaliste, un DJ dub, et DJ Latache, qui mixera de l'électro. Ça se passera à La Gueule Noire, 16 rue du Mont à Saint-Thé. Le lendemain, car ce n'est pas fini, une journée entière de discussions et d'ateliers pour qui n'aura pas trop pris sa grosse cuite. Donc ça se passera au clapier, c'est une grande salle à Saint-Thé. Il y a des ateliers d'autodéfense à 10h, mixtes et non mixtes. 11h, une table ronde sur le commerce et l'industrie de l'armement français avec l'Observatoire des armements et Mathieu Rigouste. À 14h, une table ronde de l'état colonial à l'état d'urgence permanent, évolution du maintien de l'ordre avec les collectifs Désarmons-les, Urgence Notre Police Assassine, Ishka Château, j'espère que je l'ai bien dit, et des militants de la cabane juridique de Calais s'ils descendent. Ils peuvent quitter la zone. Alors, retour des discussions à 16h ensuite, face à la police, face à la justice, les infos pratiques avec des Armonlets, les strips médics et les caisses de solidarité. Et quelles alternatives à la militarisation des conflits par le MAN. Tout ça se finira dans une assemblée de clôture qui, à coup sûr, il y aura sans doute une soupe parce qu'il va faire frais, mais l'Office du tourisme stéphanois et Météo France nous assurent d'un week-end clément et ensoleillé. Alors ça, si c'est pas super.
Et donc, au regard de cette circulaire que je renomme la relative à la lutte contre les infractions commises à l'occasion des manifestations et autres mouvements collectifs, j'ai envie de faire un petit peu d'actualité sur Calais plus longuement et un petit peu sur la ZAD. Donc à Calais, c'est l'attente de la date de début de la destruction du bidonville. Qui pourrait être sûrement la celle du lundi 24 octobre. Et donc, à l'intérieur de cette attente se croise le feuilleton des dispositifs policiers qui se préparent et celui des mineurs que le Royaume-Uni accepte au compte-gouttes pour donner un vernis humanitaire à l'opération. Il faut bien dire que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias, là, c'est que c'est des mineurs qui rejoignent leur famille, du coup, ils sont dans leurs droits et c'est comme si c'était une faveur, alors que c'est tout à fait normal. Donc, pour faciliter l'expulsion finale, la répression donc, s'est accentuée à Calais, puisque les rafles ont réaugmenté, ainsi que les contrôles aux faciès, des arrestations dans les gares, des prises d'empreintes digitales, parfois de force, une multiplication des placements en rétention, donc la capacité du centre de rétention de Coquel à côté de Calais a augmenté de 20 places, et des expulsions. Le quota de 80 arrestations par jour à Calais avait été décidé par le gouvernement. Et donc, en fait, pourquoi il y a cette augmentation de la répression actuellement ? Bah, c'est pour amener un maximum de personnes à partir d'elles-mêmes à s'auto-expulser dans un climat délétère. Et le centre de rétention administratif d'Andaï, près de la frontière espagnole, qui était fermé, a réouvert mardi ses portes pour accueillir des exilés arrêtés à Calais. Plus largement, l'ensemble des centres de rétention de métropole vont avoir pour priorité d'enfermer et sans doute d'expulser les personnes transférées de Calais. Vous voyez, tout se prépare là quand même, tout est fait pour que l'expulsion soit bientôt. Et signe de la décomposition du paysage associatif dans ce contexte, alors je vais vous lire un truc qui va vous faire bizarre, c'est que le président de l'association Salam a déclaré « Nous sommes dans la confiance face à l'opération prévue par le gouvernement ». Ça fait mal hein, d'entendre ça. Bref, donc il y a eu confirmation que les personnes ayant reçu une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, ou ayant été déboutées de leur demande d'asile, seront expulsées du territoire à leur arrivée en centre d'accueil et d'orientation ou en centre de rétention. Donc ça va être expéditif tout ça, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et donc il y a bien un commissariat mobile qui sera installé à demeure pour les personnes qui refuseraient de monter dans le bus, probablement aussi pour les soutiens qui seraient trouvés dans le bidonville et ne feraient pas partie des listes nominatives données par certaines associations. Donc voilà, on revoit bien la circulaire. Il y a une rangée de caméras de vidéosurveillance qui a été accrochée au lampadaire de l'éclairage public le long de la rue des Garennes. Donc elle conduit à un hangar gardé depuis quelques jours par des policiers ou des gendarmes mobiles et à des tentes militaires auraient été aperçues à l'intérieur. Oui, ils mettent les moyens. Lundi, là, la police est venue afficher sur la porte des magasins et restaurants du bidonville le jugement du Conseil d'État les concernant. Donc, ils doivent évacuer dans les 48 heures suivant l'affichage. Après, ils pourraient, ces restos pourront être détruits. Voilà. Donc, malheureusement, on voit bien par tout ce long truc qu'on vous a dit que les expulsions se préparent. Et quant à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas beaucoup mieux. On sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, Valls, notre Premier ministre, a assuré encore une fois hier devant les députés que l'évacuation de la ZAD aura bien lieu. Ceci malgré les risques de débordement que cela pourrait engendrer. Il a souligné que l'opération serait périlleuse, mais se ferait.
Voilà, du coup, on peut pas vraiment donner un résumé à tout l'ensemble des trucs dont on vient de parler. Après, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il peut y avoir un côté démoralisant, c'est un mot dur à dire, et par rapport à tous ces dispositifs hyper effrayants, de circulaires, etc., qui forcément mettent pas à l'aise quand on est dans la rue, et qui ont l'impression de revenir contre notre droit légitime à manifester dans l'espace public, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut travailler, et il faut surtout essayer d'être ensemble dans ces moments-là pour que la prochaine circulaire, ce soit pas simplement l'interdiction des rassemblements purs et simples, parce que là, on est quand même vraiment en voie d'un truc qui est vraiment, vraiment flippant, qui ressemble un peu de la SF, quand on s'est dit tout comme ça. Et c'est aussi, concernant les expulsions de la ZAD et de Calais, des processus où il faut soutenir, si ça vous parle, bien sûr. Il y a plein de manières différentes de le faire. Il y a déjà pas mal de gens qui se rendent sur zone et qui font des allers-retours et qui vont soutenir directement là-bas. Mais il y a aussi des appels, et ça, vous pouvez les suivre sur les différents sites participatifs à droite, à gauche, dans la toile. Des appels à d'autres types d'actions qui vont distraire un petit peu l'ensemble de tout ce dispositif policier national. C'est-à-dire que si il y a des trucs un peu partout, ils vont pas pouvoir rameuter tous les flics du pays, parce que c'est des brigades qui tournent, hein, c'est pas les flics de chaque ville qui traînent chaque ville, ça serait trop évident. Donc il y a beaucoup d'appels à action dans pas mal de cadres, qui sont aussi un petit peu un truc comme ça pour disperser un petit peu la tension et le focus qu'il peut y avoir sur les zones qui ont une grosse pression en ce moment.
Et pour suivre l'actualité des prochains temps faites par des personnes concernées dans la lutte, dans ces luttes, sur Calais, il y a Passeur d'Hospitalité, c'est un blog qui est quand même où il y a tous les jours des articles pour suivre ce qui se passe. Et puis sur la ZAD de Notre-Dame, il y a zad.nadir.org qui suit l'actualité également, si vous ne voulez pas avoir le prisme de France Info ou d'autres médias.
Et bien pour conclure ce gros point info, on va se passer le jingle sur le fameux forum qui va se dérouler à Saint-Étienne.
Se dit de toute cause entraînant la mort. Armes dans l'étal, équipement policier en prolifération, censé aider au maintien de l'ordre en tirant sans tuer. Ces armes font pourtant une quinzaine de morts par an. Elles ont fait plusieurs centaines de blessés pendant le mouvement contre la loi travail. Autour de la question de leur existence et de leur utilisation, se tiendra à Saint-Étienne, le week-end du 22 et 23 octobre, le forum pour le désarmement de la police et la démilitarisation des conflits. Deux jours de rencontres et rassemblements populaires dans l'ancienne Armeville, berceau du FAMAS et du Flashball. Au programme, des discussions avec de nombreux invités, des ateliers, des concerts, et le Famastival, une grande parade carnavalesque pour exprimer ensemble notre refus de la répression et de la peur. Forum pour le désarmement à Saint-Étienne les 22 et 23 octobre 2016. Plus d'infos sur désarmonslapolice.noblogs.org.
Et tout en glissement encore extrêmement fin derrière ce sujet de discussion autour de l'expulsion de Calais, eh bien, j'ai appris, et ça m'a rempli de bonheur, l'ouverture d'un lieu autogéré de passage, alors en deux mots en plus, de passage des migrants et migrantes dans le sud de la France. Alors, je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur Marseille Info Autonome. Étant donné que c'est quelque chose de très frais, je pense qu'il y aura d'autres infos qui vont être mises à jour au fur et à mesure. N'hésitez pas à suivre, ça se trouve, il y a déjà même des erreurs dans ce que je dis, mais j'ai rien trouvé encore d'actu en mise à jour. Du coup, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur Marseille Info Autonome ou d'autres sites autour des questions des migrations et des sans-papiers. Donc depuis lundi soir, il y a une cinquantaine de migrants et migrantes, et une cinquantaine de soutiens aussi, qui occupent un centre de vacances désaffecté de la SNCF à Saint-Dalmas-de-Tende, c'est dans la vallée de la Roya. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est dans la RPU, la Côte d'Azur, pas loin de la frontière italienne. La plupart des migrants et migrantes sont des mineurs. Beaucoup d'entre eux sont malades, blessés et en très mauvais état de santé. Cette occupation est portée du coup par une association qui s'appelle la Roya Citoyenne, et soutenue par Amnesty International, le MRAP, CIMAD, RSF, Médecins du Monde, etc. L'occupation a déjà été, je crois le jour même ou le lendemain, encerclée par les forces de police et menacée d'expulsion, mais elle a l'air de tenir. La SNCF, en tout cas, a déjà déposé une procédure de référé pour les virer le plus rapido possible. Donc une expulsion pourrait survenir, mais on ne peut pas la prédire avec certitude, bien entendu. Par ailleurs, en tout cas, il y a les habitants et les habitantes autour de cet endroit qui apportent une ouverture, des couvertures et de la nourriture. Et ça a l'air d'être plutôt bien entouré et relativement bienveillant autour de la place. Quoi qu'il en soit, les occupants et occupantes demandent déjà bien sûr d'informer au maximum les personnes et les organismes de la situation, que ça se sache un petit peu partout et que ça se diffuse bien pour pouvoir les soutenir, et aussi d'organiser des protestations de soutien à cette action dans un maximum de lieux, devant des mairies, des préfectures et des sous-préfectures. Il y a le collectif Soutien Migrants 04 qui d'ailleurs proposait aujourd'hui de se rassembler devant la sous-préfecture de Fort-Quelquier. J'ai pas du tout trouvé d'infos parce que là c'était trop frais, puis j'ai pas Twitter, tout ça, bref. En tout cas, à l'heure de l'expulsion annoncée de Canet, ce soutien à ce type d'initiative est franchement de la plus grande importance.
Et je voulais rajouter aussi que sur le site Migrant Solidarity, vous avez un article en anglais et en français sur 40 entreprises qui sont mouillées dans l'expulsion des migrants et des migrantes, qui expliquent un peu en détail qu'est-ce qu'elles font autour de ce grand truc qu'est Frontex, ce que font ces entreprises pour œuvrer contre pour l'expulsion plus rapide et mettre des barrières dans les roues, mettre des barrières aux personnes qui essayent de venir en France. Alors, Monsanto, il y a eu un procès et je trouvais ça intéressant de faire un petit compte rendu, puisque du 14 au 16 octobre, il y avait un tribunal international à La Haye. Des agriculteurs, des scientifiques et des activistes du monde entier sont rassemblés aux Pays-Bas pour juger Monsanto. Ce qui est un peu quand même, j'ai l'impression, une grande première. Donc, en Europe. Donc 30 témoins qui étaient venus d'Argentine, du Sri Lanka ou de France ont défilé pendant 2 jours devant des juges professionnels chargés d'une mission inédite. Donc juger les crimes de la firme américaine Monsanto, le champignon des OGM, si vous vous rappelez plus quand même, c'est un peu dur de ne pas se rappeler de ce nom puisqu'il est partout. Et il y a un concept juridique qui s'impose, celui de l'écocide. Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était avant l'écocide. Donc, il y a Valérie Cabanès, qui est juriste, qui donne une définition là, de l'écocide. Donc, ça serait le fait de porter atteinte durablement à des éléments vitaux vitaux sur Terre, des communs planétaires comme les océans, l'atmosphère, les pôles, tous les écosystèmes qui ont une valeur supranationale. Donc l'écocide s'étend quand on peut démontrer que détruire ces systèmes dont dépend la vie sur Terre menace la sûreté de la planète, son habitabilité, et porter atteinte à l'écosystème Terre, c'est donc menacer l'humanité. Et il y a des juristes qui se battent pour que cette atteinte soit reconnue comme un des crimes les plus graves, je ne sais pas les plus graves, mais en tout cas, que ça soit considéré comme un crime. D'où, je reviens sur cette définition de l'écocide, ce qui explique un peu ce procès qui a été volontairement médiatisé par les militantes là, qui l'ont mis en place pour faire de l'info, mais de la reconnaissance face à comment attraper une multinationale, c'est jamais simple. Et donc là, c'est une manière d'attirer l'œil dessus.
Et puis il y a toujours l'enjeu, de toute façon, avec les OGM aussi, de remettre à jour un petit peu la prise de conscience de tout le monde, et par rapport à son alimentation, par rapport à son utilisation, etc., de tout ce type de produits, et du coup que ce soit un petit, ça reste un peu bien présent dans les consciences, quoi.
Et donc voilà, ces deux jours, c'était jusqu'au ce dimanche soir, donc 30 témoins experts, donc il y avait des avocats, des médecins, des scientifiques aussi, qui étaient venus des 5 continents et brossaient un portrait glaçant des dégâts causés par Monsanto, donc sur les hommes mais, et les femmes, sur les sols, sur les animaux et sur la biodiversité. Et c'était tout un peu en mode récit de vie, qui ont aussi dressé l'inventaire des méthodes employées par Monsanto pour contrôler et maintenir son hégémonie mondiale, donc tous ces coups fourrés, quoi, et jusqu'à contrôler une partie de la production scientifique sur le sujet également. C'est ça, comme ils sont forts, ils autoproduisent des thèses scientifiques pour dire à quel point leurs produits sont super bien. Donc, chargé de symbolique, donc, puisque ce procès a été instruit par des experts de la justice internationale. Mais en l'état actuel, le droit international ne permet pas de poursuivre une entreprise pour des crimes contre l'environnement. Donc, c'est un faux procès, mais vrai, sur des vrais argumentaires et pour faire des prises de conscience. Et les juges seront à même d'émettre des recommandations à la Cour pénale internationale avec l'espoir de faire évoluer le droit international. Et y avait donc des personnes qui témoignaient à la charge contre Monsanto, de vrais juges. Et ces éléments à charge pourront être aussi utilisés lors de poursuites judiciaires locales. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça a fait un gros coup de projecteur, mais aussi pour que d'autres personnes utilisent des arguments communs pour la défense localement de leurs terres, etc.
Et que derrière, ça puisse être utilisé dans des dossiers, voilà, s'il y a d'autres plaintes sur l'argumentaire, ouais, et faciliter un petit peu les procédures.
Donc Monsanto avait été invité à participer à l'événement par les personnes et à défendre sa position. L'entreprise a décliné l'invitation et avait publié une lettre ouverte le jour de l'ouverture du procès. Ils sont forts aussi dans leur com. Le comité lui a répondu à son tour, donc je cite, « Aujourd'hui, Monsanto provisionne des sommes faramineuses pour faire face à des sanctions en civil. Ces condamnations sont peu connues. Les sanctions financières représentent une goutte d'eau par rapport aux moyens provisionnés par leur firme. » Donc ils préfèrent payer, en fait, quand ils sont accusés.
Ouais, et puis le fait qu'ils se défendent, ça les médiatiserait dans leur défaite potentielle. Du coup, ils préfèrent se terrer et banquer, vu qu'ils ont plein de thunes.
Donc je cite, « Nous souhaitons, à travers ce tribunal, faire connaître la réalité des faits. Et il est dommage que Monsanto ne vienne pas apporter des éléments de contradiction, malgré notre appel. » Donc l'un des 30 témoins présents, un paysan maya du Mexique, a présenté des éléments visant à démontrer le lien entre la glyphosate et d'autres produits chimiques et certaines maladies de l'enfant. Et bref, voilà, et en fait, il y a des tonnes de gens qui ont témoigné. Donc les juges, maintenant, vont devoir étudier ces allégations en examinant les preuves et rendront leurs conclusions publiques en décembre. Donc c'est un peu intéressant, je pense, de suivre en décembre. Et en parallèle du tribunal, sur ces deux jours, se tenait une assemblée des peuples où des personnes du monde entier ont discuté des alternatives possibles à l'agriculture industrielle. Comme l'ont rappelé de nombreux témoins, l'un des plus grands défis auxquels il doit faire face est de se faire entendre. Et cette assemblée a ainsi offert aux communautés un espace essentiel pour s'exprimer et trouver des solutions à leurs problèmes communs. Et ces récits-là et inquiétudes qui ont été rapportées par ces 30 personnes font écho à des millions de voix à travers le monde. Donc c'est pas que 30 personnes. Et pas seulement des apiculteurs ou producteurs ou paysans, mais tous les gens qui bouffent de la nourriture et qui vivent sur cette planète.
Eh bien, nous allons finir ce Canu Info par un mini-agenda. Et ça se déroulera samedi 22 octobre à 15h, ici même à Lyon, avec un rassemblement devant le Palais de Justice de Lyon, qui situe quai Romain Rolland dans le 5e. Et il s'agit de la Journée internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné en France à Lannemezanne. Je suis pas sûr de bien prononcer.
C'est vers Toulouse.
Georges Ibrahim. Comment ?
Les maisons, je crois.
Ah, voilà. Georges Ibrahim Abdallah, qui est victime d'un véritable déni de justice. Alors, pour plus d'infos sur sa demande de libération, vous pouvez réécouter le Canu Info, notre Canu Info de la semaine dernière.
On a
sur
pris
notre
temps,
blog.
Oui, voilà, on a vraiment pris le temps d'expliquer un peu où ça en était.
Ou aller sur le site collectif69palestine.free.fr, vous tapez sur votre moteur de recherche collectif69palestine, vous aurez l'adresse exacte. Peut-être qu'on peut préciser en bref, c'est qui Georges Ibrahim Abdallah pour les gens qui nous écoutent.
Ah, écoutez ce qu'on a dit la semaine dernière, mais en tout cas, c'est un prisonnier politique qui a été accusé d'assassinat et de potentiels attentats en 85 à la FNAC à Paris. Après, les trucs d'attentats ont été déboutés, mais il continue, après 44 ans d'incarcération, à continuer à être en prison, alors que depuis 2012, il peut... il a plus besoin d'être en prison, mais il continue à le maintenir en prison parce que notamment il demande qu'il fasse une déchéance de nationalité, je crois, pour partir, du moins pour être libéré, et ce qu'il refuse.
Et oui, ça, il est accusé d'avoir tué un ou deux ambassadeurs israéliens en France.
Deux, ouais.
Alors même que des anciens des services de renseignement de l'époque témoignent que, bon, a priori, c'était sûrement pas lui, quoi. Ça faisait un peu genre coupable idéal. Voilà.
Pour plus de détails, en tout cas, blog du Canu Info du mercredi, dont je me souviens plus l'adresse, mais si vous tapez ça, vous tomberez bien sur nous.
Oui, et sinon, mais c'est pas du blog du Canu Info du mercredi, c'est blog du Canu Info. Mais, et sinon...
Oui, mais il faut chercher sur le mercredi, c'est ça que je veux dire.
Oui, et sinon, alors, pour les autres, parce qu'on a été pris de court par le temps tout à l'heure pour préparer ce Canu Info, donc pour les autres infos locales, allez sur le site de rebellion.info, il y a une rubrique agenda où vous saurez ce qui se passe demain et après-demain. Et puis aussi... la prochaine émission, je pense, fera un agenda plus détaillé que nous. Donc la prochaine émission à 20h sur Canu, c'est Idées Noires.
Et à n'en pas douter, vous vous donnez plein d'occasions de sortir et plein de dates à Tire-Larigot à 20h pétante, les connaissants.
Et comme vous l'avez compris, ce thème du Canu Info étant la nouvelle circulaire d'Urvoas qui va matraquer les prochaines révoltes, eh ben, il est temps de donner de l'argent, si vous en avez, aux caisses de solidarité, et en l'occurrence à Lyon, à la caisse de solidarité de Lyon contre les violences policières. Du coup, si vous avez de l'argent, ils en ont besoin pour les suites du mouvement sur la loi travail, enfin, voilà, tout ça, et la caisse de solidarité de Lyon a besoin de vous et de votre argent. Et comme il nous reste un quart d'heure, on va pas vous parler pendant un quart d'heure pour rien dire.
On pourrait faire un exercice de style comme ça.
Ouais. Ah non, mais je me rappelle
de l'ennui
que...
à la radio.
Ouais, c'est ça.
Je me rappelle qu'il y a ce samedi. Ah non.
C'est ma... voilà. Une très belle tentative.
Non, mais bientôt il y aura une cantine pour cantiner qui aura lieu en novembre. Pareil, pour donner des sous, notamment à des prisonniers, prisonnières.
Et ben voilà, ce Canu Info touche à sa fin. Dans 15 minutes, vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et juste avant de vous laisser avec un quart d'heure de bande continue, on va se réécouter, hein, ça fait un peu matraquage, mais tant pis, on assume.
Tu oses.
Le jingle du forum de ce week-end. Alors c'est ce week-end, alors s'il y a des gens qui ne nous ont pas écoutés, voilà, c'est ça.
Et ben bonne soirée,
merci,
et à
bientôt.
La prochaine.
Au revoir.
L'étale se dit de toute cause entraînant la mort. Armes dans l'étale. Équipement policier en prolifération, censé aider au maintien de l'ordre en tirant sans tuer. Ces armes font pourtant une quinzaine de morts par an. Elles ont fait plusieurs centaines de blessés pendant le mouvement contre la loi travail. Autour de la question de leur existence et de leur utilisation, se tiendra à Saint-Étienne le week-end du 22 et 23 octobre, le forum pour le désarmement de la police et la démilitarisation des conflits.